La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et en compagnie des revues électroniques, si j'ose dire, avec vous, Bruno de Labriole, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le co-créateur et animateur du MOC, chaîne YouTube, où vous ambitionnez de parler des classiques de la littérature en les rendant attractifs pour le plus grand nombre. Vous êtes également co-auteur du livre Classique, point d'exclamation, chez Albin Michel. Et vous venez nous parler d'une de vos nouvelles préférées d'Edgar Poe, c'est Le Masque de la Mort Rouge, et de la manière dont deux auteurs, on peut les appeler comme ça, les ont repris à leur compte, Baudelaire d'un côté, et puis Roger Corman de l'autre. Alors de quoi parle cette nouvelle, Bruno ?
Alors, la nouvelle de Poe, elle nous présente une contrée imaginaire qui est ravagée par la mort rouge, et qui visiblement est pire que la peste, puisque, je cite, « l'invasion, le progrès, le résultat de la maladie, tout cela était l'affaire d'une demi-heure ». Pourtant, nous dit Poe, le prince Prospero était heureux et intrépide et sagace. Quand ses domaines furent à moitié dépeuplés, il convoqua un millier d'amis vigoureux et allègres de cœur, choisis parmi les chevaliers et les dames de sa cour, et se fit avec eux une retraite profonde dans une de ses abbayes fortifiées. Alors, au bout de 5 à 6 mois de fêtes permanentes, le prince décide de donner pour ses 1000 amis un immense bal masqué qui s'étend sur les 7 salons de l'abbaye. L'orgie n'est troublée que par le sourd grondement d'une vieille horloge d'ébène, qui, depuis le salon le plus reculé, jette toutes les heures les danseurs dans un grand malaise qui dure 8 coups, puis 9, puis 10, puis 11. À minuit, la paralysie est telle que le prince Prospero remarque parmi les convives un costume du plus mauvais goût, barbouillé de sang et dont le masque est celui d'un cadavre raidi par la mort rouge. Une fois sa terreur avalée, le prince s'élance à la poursuite de l'importun, un couteau à la main et la foule sur ses talons. Arrivé dans la salle de l'horloge, le fantôme se retourne brusquement et fait face à ceux qui le suivent. Un cri aigu partit et le poignard glissa avec un éclair sur le tapis funèbre où le prince Prospero tombait mort une seconde après. Et tous les convives tombèrent un à un dans les salles de l'orgie inondées d'une rosée sanglante et chacun mourut dans la posture désespérée de sa chute.
Bon, alors ça c'est l'histoire terrible qui est l'histoire du masque de la mort rouge. Comment est-ce que Baudelaire reprend à son compte ce même thème, Bruno ?
Eh bien, alors c'est dans la section des tableaux parisiens. On trouve le poème qui s'intitule « Danse macabre » et qui met en scène également l'irruption dans un bal de la mort qu'on n'avait pas invitée. « Vit-on jamais au bal une taille plus mince ? Cette femme sans chair, cette bayadère sans nez, n'est pas venue régler le sort des danseurs, mais elle les considère malgré tout avec une grande ironie. On retrouve à nouveau le mécanisme permanent des oppositions que Poe utilisait, mais cette fois-ci, le contraste ne réside plus entre d'un côté l'insouciance sauvage du prince Prospero et de l'autre la brutalité de la mort rouge, mais il réside plutôt entre les lieux communs de la poésie sensuelle et le décharnement du squelette. Je cite « Et son crâne de fleurs artistement coiffé oscille mollement sur ses frêles vertèbres. » Ou bien plus loin, « La ruche qui se joue au bord des clavicules comme un ruisseau lascif qui se frotte aux rochers défend pudiquement des lazzis ridicules les funèbres appâts qu'elle tient à cacher. » Cependant, donc, dans le poème de Baudelaire, il n'y a pas de méchant prince à punir, pas de vengeance des pauvres gens à exécuter. Ceux qui sont emmenés au 7e salon par la mort dansante, ce ne sont pas seulement les nobles du pays, c'est toute l'humanité. En clair, Edgar Poe nous donnait à lire un conte fantastique et glaçant, alors que Baudelaire nous donne à voir une désespérance qu'on retrouve à chaque page de son recueil.
Voilà donc pour Baudelaire. Et alors Roger Corman, lui, n'est pas tellement connu pour être sujet au spleen, si je ne me trompe.
Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Roger Corman, c'est le pape de la série B, qui est donc une figure majeure du cinéma indépendant américain à partir des années 60. C'est celui qui, d'ailleurs, a offert leur premier rôle à au moins la moitié des stars d'Hollywood. Et à partir des années 60, il réalise 7 adaptations des nouvelles de Poe au cinéma. En 1964, il réalise donc celle du Masque de la Mort Rouge, mais le problème qui se pose, c'est comment faire un film d'une heure et demie à partir d'une courte nouvelle. Alors Corman décide donc d'ajouter un triangle amoureux entre le prince Prospero, une jeune paysanne dont l'innocence la séduit, et sa propre fiancée, Giuliana, qui est amatrice de messe noire, mais qui est le genre de satanique qu'on trouve assez peu dans l'œuvre de Poe, puisque c'est une satanique bourgeoise. Elle ne veut de mal à personne, elle ne rêve que d'une chose, c'est être l'épouse du prince pour l'éternité. Et oui, ce que Satan a uni, que l'homme ne le sépare pas. Plus globalement, Corman passe à côté d'une dimension essentielle de la nouvelle de Poe, qui est le fait que la nouvelle, c'est un texte ramassé qui met en scène des archétypes sans passé, sans avenir, et où les exagérations sont au service de la forme. C'est donc avant tout un conte. Alors du coup, en contextualisant l'histoire, en psychologisant les personnages, eh bien Corman, il veut en dire plus, et par conséquent, il en dit moins. C'est plutôt dommage, parce que Corman a réussi de belles adaptations, dont notamment celle de Puy et le Pendule, car elle arrive enfin à restituer l'atmosphère étrange et pénétrante d'Edgar Allan Poe.